par les projets de réforme de l'éducation avant la Seconde Guerre mondiale. Mais auparavant, débarrassons-nous d'un certain nombre de stéréotypes. Hein. Par exemple, école et société. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous réfléchissez sur une société, dans une société, à quelque moment que ce soit dans l'histoire de l'humanité, et vous êtes obligé de vous demander comment vous transmettez ce que vous savez et ce qui est nécessaire aux autres. Donc, on ne peut pas séparer l'école et la société. Voilà. La réflexion existe toujours. Bien entendu, cette réflexion est contradictoire. L'idée selon laquelle, à un moment donné, tout le monde pensait ça, elle est fausse. À tous les moments de l'histoire de l'humanité, vous avez des contradictions. Alors évidemment, vous avez des positions dominantes et des positions qui contestent cette position dominante. Mais on a toujours des contradictions. Alors l'idée selon laquelle, cette époque où tout le monde était d'accord, non, jamais. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, et bien sûr encore moins au moment où les sociétés sont complexifiées, et en particulier après la révolution industrielle, donc qui commence à la fin du XVIIIe. Alors, parmi les stéréotypes qu'il faut évacuer, avant c'était mieux. Alors là, il faut se méfier parce qu'il y a une version progressiste et une version négative dans ce domaine-là. On peut dire, bon, avant c'était mieux. Oui, avant, l'école n'était pas dégradée. Bien sûr que non. L'école, elle dépend de la société dans laquelle on se trouve et on a toujours des contradictions. L'idée selon laquelle l'école de Jules Ferry était merveilleuse, ça fait éclater de rire les historiens, évidemment. Hein. D'autant que Jules Ferry avait mis en place un système absolument ségrégatif sur le plan social. Puisqu'il y avait d'un côté l'école du peuple et de l'autre côté l'école pour les riches, hein, pour les enfants bien nés, comme on disait à l'époque. Voilà. Mais en même temps, et c'est là qu'il y a des contradictions, bien sûr, en même temps, il disait... tout le monde peut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses qui sont les idées républicaines, etc., etc. Et donc, les bourgeois qui sont à l'époque, qui arrivent au pouvoir, ont confiance dans leur idéologie. C'est-à-dire qu'ils disent qu'on convaincra tous les gens du peuple, à l'époque les ouvriers, mais surtout les paysans, on va les convaincre tous que notre système c'est le bon. Et ils se trouvent face, évidemment, dans cette situation, juste après la Commune. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ont eu très peur, et ils vont continuer à avoir très peur. Et évidemment, pour eux, ce qui compte, c'est de faire face à l'obstacle, c'est-à-dire l'obstacle qui pousse vers l'arrière, c'est-à-dire l'Église, pour aller vite. Et l'anticléricalisme va servir, évidemment, de moyen d'unification qui va intégrer prolétaires et patrons. Voilà, donc il faut voir aussi ce caractère particulier de l'anticléricalisme et du cléricalisme. D'autant que dans le second degré, où il y a à peu près à ce moment-là 3% de la population autour des années 1900 qui accèdent, hein, donc vous voyez le système Jules Ferry dans lequel on arrive à l'école primaire et puis après on va jusqu'à l'université, c'est du pipeau. Ça n'existe pas. Bon, nous sommes dans cette situation-là. Évidemment, ce qui essaie de faire masse, c'est l'idée de l'anticléricalisme. Car à l'époque, le secondaire a très peu d'élèves, proportionnellement. Mais la moitié sont dans des établissements catholiques. C'est-à-dire que la République a besoin de faire face à cette offensive cléricale, encore plus, évidemment, après l'affaire Dreyfus. Donc avant, c'était mieux, non. C'était différent. Et globalement, quand même, je pense qu'on pourra démontrer, quand on parlera du plan, on pourra démontrer qu'en fait, on a fait des progrès, quoi. Hein, voilà. Alors, sur l'éducation et l'instruction, là, il faut sortir de là. Bien que ce soit repris par un certain nombre de gens de gauche, et évidemment, la droite s'est emparée de cette question massivement, en faisant croire que l'école pouvait être séparée de la société. Ça n'a jamais existé, et on peut dire tranquillement que ça ne pourra jamais exister. Car l'école, elle est dans la société. Et je ne peux pas arrêter à la porte de l'école les problèmes qui sont autour. C'est impossible. Je passe sur le fait que quand on nous balance les histoires de Troisième République, il suffit de lire la façon dont on enseignait pendant la Première Guerre mondiale pour s'apercevoir que c'était un bourrage de crâne invraisemblable. Bon, fermons ces parenthèses parce qu'on va s'éterniser. Alors, qu'est-ce qui se passe avant la Seconde Guerre mondiale? Ben, déjà, on s'interroge sur l'école, et comme on s'est toujours interrogé. Et ce qui avance dans la réflexion, notamment des côtés des progressistes, c'est l'idée qu'il faut faire en sorte que l'école ne soit plus séparée entre l'école du peuple et l'école de des enfants bien-nés, et qu'il y ait ce qu'on appelle l'école unique. Alors c'est un thème qui apparaît dès la fin du XIXe siècle et qui va se développer après la Première Guerre mondiale, pour des raisons que vous devinez, parce que la guerre a été quand même terrible. Et elle a saigné, bien sûr, toutes les générations, que ce soit des riches ou des pauvres, d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors donc, le thème de l'école unique se développe, et pour cela, il va être en conjonction avec celui de l'éducation nouvelle. L'éducation nouvelle est une vieille chose. Voilà. Il faut bien le dire. C'est d'ailleurs aussi vieux, pratiquement. Ouais, Montaigne, Rabelais, etc. Bon, Rousseau. Qu'est-ce que l'éducation nouvelle? En gros, pour simplifier, c'est l'idée selon laquelle il ne faut pas seulement s'occuper de ce qu'on enseigne, mais il faut quand même s'occuper de celui à qui on enseigne, c'est-à-dire à l'enfant, aux enfants. Voilà, je résume. Hein. Et donc, il faut se demander comment on fait pour que les enfants s'intéressent à ce qu'on leur apprend. Et donc, l'éducation nouvelle va poser d'emblée la question du rapport entre la forme et le contenu. Ce qui, en tant que marxiste, ne peut pas nous gêner, au contraire. Pour nous, c'est justement ça l'essentiel. Il n'y a pas de forme séparée d'un contenu, et il n'y a pas de contenu séparé d'une forme. Alors, on y reviendra peut-être. Donc, l'éducation nouvelle se développe à partir de 1921, elle est créée officiellement à ce moment-là, et elle est ambiguë, c'est-à-dire qu'en fait, elle regroupe toutes les tendances idéologiques. Sa naissance est une naissance aristocratique, c'est-à-dire les écoles de la fin du 19e siècle en Grande-Bretagne, et ça arrive en France, l'école des Roches, hein, voilà. Et puis, vous avez toute une série de courants idéologiques très variés. Sauf, et au fur et à mesure que le temps passe, apparaît les années 30, sauf l'extrême droite. L'extrême droite, bien que, enfin, on y reviendra d'ailleurs, puisque j'ai pensé que ça vous intéresserait. L'extrême droite est arrivée au pouvoir en France. Elle a été au pouvoir pendant 4 ans. Et elle avait des projets éducatifs. Je pense que l'horizon rétrospectif n'est pas sans intérêt par les temps qui courent. Alors, les projets du Front populaire, quand en 1936, le Front populaire gagne les élections, ils ont évidemment des projets en ce qui concerne l'éducation. Ils ont un ministre radical, Jean Zay, qui est très jeune, et qui va avoir beaucoup de projets, mais il a très peu de temps pour les réaliser. Alors, le seul projet fort qu'il met en œuvre, je passe sur les classes d'orientation parce que c'est aussi une question intéressante, c'est porter la scolarité de 13 à 14 ans. Et pour cela, il fait des instructions officielles, et ces instructions officielles de 1938 concernent justement la tranche entre 13 et 14. Je passe sur le fait que 13 ans, c'était l'affirmation de Jules Ferry, mais que bien entendu, il y avait toute une série de dérogations qui faisaient que la plupart des enfants, après 12 ans, n'allaient plus à l'école. Voilà. Donc, le progrès que constitue le passage sur les 13 à 14 ans se traduit par l'utilisation d'instructions officielles, et ces instructions officielles sont directement inspirées par l'éducation nouvelle. Car l'éducation nouvelle, à ce moment-là, elle a un statut quasi officiel. Alors, j'ai montré sa diversité. Hein. Ça va donc de la droite, on va dire catholique, jusqu'à Freinet, c'est-à-dire les communistes. Voilà. Et cet ensemble, c'est le groupe français d'éducation nouvelle. Donc le groupe français d'éducation nouvelle recouvre tout ça. Et tous les 2 ans à peu près, ils font des congrès. Et évidemment, au fur et à mesure qu'on approche des années 30, les congrès deviennent de plus en plus difficiles. Je passe là-dessus. Alors, évidemment, arrive 40, juin 40. Alors, je rappelle quand même au passage que Jean Zay fait partie d'un gouvernement, le gouvernement Daladier, qui met les communistes dans les camps d'internement, hein, avant la guerre. Freinet entre dans un camp d'internement en mars 40, avant juin. Voilà. Bien entendu, Vichy ne va pas les libérer, hein, comme certains racontent que, à cause du pacte germano-soviétique, les communistes se sont mis à frayer avec Pétain. Ils avaient du mal à frayer, ils étaient dans les camps, hein, dans les camps d'internement. Hein. Pareil, bon, je passe là-dessus. Alors, la jeunesse, c'est une des priorités du régime de Vichy. C'est une des priorités fortes, pour une raison facile à comprendre, hein. C'est que c'est plus facile de convaincre des jeunes que des gens plus âgés, et d'autre part, ça assure l'avenir. Voilà. Alors, que fait le gouvernement de Vichy? Il débat. Ben oui, il y a de très vifs débats en ce qui concerne... Parce que le gouvernement de Vichy est très composite. Ou le régime de Vichy, il est très composite. Ça va de l'extrême droite royaliste à des gens qui prennent au sérieux le national-socialisme, c'est-à-dire le socialisme. Pas seulement le nationalisme, le socialisme aussi. Hein. Donc vous avez une extrême droite et une extrême gauche. Alors évidemment, leur principe commun, il est celui-là très fort, c'est un, le culte du chef. Donc le modèle de l'école, c'est le modèle militaire. L'école doit ressembler à une armée, voilà, à la façon dont fonctionne dans l'armée. Il faut un bon chef détermine tout le reste. Donc il faut évidemment écouter le chef. Voilà. Et évidemment, il faut trouver des bons chefs. Alors, donc, Vichy va développer toute une série de thèmes de cette nature. Et dans un premier temps, les réformes du régime, c'est de rendre compte de ce qui a causé le désastre 36, de 40, enfin 36 et 40, pour eux c'est pareil. C'est un désastre. Quelle est la faute? C'est la faute des instituteurs. C'est la faute des instituteurs. Donc, on va tirer à boulet rouge sur toutes les institutions laïques, les écoles normales d'instituteurs, qui sont supprimées, mais on envoie les élèves maîtres dans les lycées, ce qui n'est pas un retour en arrière. Voilà. On crée la possibilité d'enseigner la religion, mais en dehors des heures scolaires. On met, évidemment, on interdit, tu as toute une série d'interdits professionnels, comme on dira plus tard en RFA, concernant les communistes, ça va de soi. Hein. Les juifs, évidemment. Hein. Les francs-maçons. Voilà. Donc tout cela, on les marginalise, on les change de poste, etc. Bon, bien entendu, l'administration se comporte de manière très variée à ce sujet. Hein. Quand on compte les exclus du régime, ça dépasse pas 1000 personnes. C'est-à-dire que la hiérarchie administrative a résisté, même passivement, contre ces ordres. Hein. Voilà. Ce qui d'ailleurs suscite la colère des journaux de la collaboration. Et ça, c'est le premier temps. Puis, en même temps, mesure contradictoire, on supprime les écoles primaires supérieures et on les transforme en collèges d'enseignement secondaire. Les écoles primaires supérieures, c'est-à-dire un des éléments qui faisait que l'école du peuple n'était pas en rapport avec l'école des enfants bien-nés. Alors, bien entendu, donc, il y a des contradictions qu'on pourra évidemment évoquer si vous le souhaitez. Et puis, vous avez aussi une mesure tout à fait étonnante qui va être prise dans un deuxième temps. Ça, c'est à peu près le ministère Carcopinon, donc 40-41, début 42. Et en 42, Laval revient au pouvoir, il est porté par les Allemands. On met au ministère Abel Bonnard, et Abel Bonnard va, lui, prendre la décision de récupérer d'abord les francs-maçons, ensuite les anciens dirigeants du SNI. Le SNI avait été interdit comme toutes les organisations syndicales. Le secrétaire national du SNI de l'époque, Louis Delmas, est un pétainiste farouche. Et puis toute une série d'autres responsables de la FEN. Par exemple, le secrétaire du SNESUP, Ludovic Zoretti, devient chef du cabinet de Laval. Je passe sur le fait que les collaborateurs, on en a recruté partout, y compris chez les communistes. Évidemment, beaucoup moins. Hein, beaucoup moins. Mais il y en avait. Hein. Le secrétaire à la propagande de Vichy, c'est un communiste. Membre du bureau politique, en tout cas du conseil, du comité central, Marion. Voilà. Donc, je ne parle pas de Doriot. Lui, il était communiste et puis il est devenu après un des fleurons du régime de Vichy. Alors donc, Bonnard décide de récupérer ces gens-là, y compris un dirigeant du SNI. Sur quelle base ? Sur la base de l'anticommunisme et sur la base du pacifisme. Car juste avant la guerre, le SNI avait pris position pour les accords de Munich et pour la paix à tout prix. Un certain nombre, en tout cas, avaient pris position dans ce domaine-là. Et il récupère aussi un membre du bureau national du groupe français d'éducation nouvelle qui va devenir responsable du bulletin national de l'enseignement primaire en janvier 1943. Donc il essaie de faire... Et qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que dit le bulletin national d'enseignement primaire ? Mais l'éducation nouvelle, nous on est pour. On est pour. Ça mange pas de pain. L'imprimerie à l'école, alors c'est effréné, hein. Il n'y avait personne d'autre qui faisait ça. On est pour. Toute une série de considérations liées à l'éducation nouvelle, on est pour. Donc ils essaient, vous voyez, de récupérer une partie de l'éducation nouvelle, et une partie de l'éducation nouvelle est récupérée. C'est très clair. Il y a même un ancien dirigeant du SNI qui devient membre du cabinet de Bonnard. Alors bien entendu, tout ceci à l'envers, du côté des mouvements de la résistance, suscite des nouveaux projets pour sortir de l'éducation. Quelle est l'analyse essentielle des mouvements de résistance ? De la même manière que Pétain disait, c'est la foi des instituteurs, que disent les mouvements de résistance ? Et ça, ils sont assez unanimes là-dessus. Eh bien, ils disent, voilà, il y a une faillite des élites, il faut donc renouveler les élites. Et donc, tout le débat de la résistance, car il existe un débat aussi au niveau de l'école, bien sûr, c'est, est-ce qu'il faut revenir à la situation antérieure en développant le secondaire pour l'ouvrir, ou est-ce qu'il faut, et ça c'était le point de vue des communistes à ce moment-là, ou est-ce qu'il faut lutter contre la ségrégation sociale et pas simplement ouvrir l'école aux couches sociales qui ne pouvaient pas y entrer, mais il faut changer l'école et il faut changer ce qu'on enseigne à l'intérieur. Alors c'est les projets de notamment de Georges Cognon, esquisse d'une de 43, esquisse d'une politique de politique française de l'enseignement qui est donc développée en 43. Alors c'est un texte très intéressant parce que c'est le seul qui réfute l'antisémitisme du régime de Pétain. Ce n'est pas sans intérêt parce que les autres organisations de la résistance ne s'intéressent pas beaucoup à ces questions. Et ce texte est prolongé en mai 1944 par une série d'additions qui viennent de la jeunesse communiste, dans laquelle, on en reparlera tout à l'heure, dans laquelle la question posée par exemple le salaire étudiant est évidemment mise en avant. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, que se passe-t-il ? Une commission ministérielle est créée par Paul Langevin, qui commence ses travaux le 8 novembre 1944, c'est-à-dire avant même la libération complète du territoire. Cette commission comporte 21 membres, le président et le vice-président, un des deux vice-présidents. Le président, c'est Paul Langevin. Le vice-président, c'est Henri Vallon, ce sont tous deux des communistes récents. Mais la figure de Langevin est incontournable à ce moment-là, parce que c'est l'intellectuel le plus important d'avant-guerre et de cette période-là. Sur ce total, il y a donc 21 personnes et il y a 9 communistes, c'est-à-dire un peu moins de la moitié. Trois femmes, je dis ça par rapport au débat antérieur, mais il y en a, voilà, ce qui est relativement nouveau. Je vous rappelle que le gouvernement du Front Populaire avait aussi des femmes, alors qu'elles n'avaient pas le droit de vote. Voilà. Et puis, les différentes directions du ministère. Voilà. Alors, cette commission va se réunir pendant 31 mois, et tout simplement parce que les travaux de la commission fonctionnent selon Langevin, avec cette idée qu'il faut qu'il y ait unanimité Alors vous devinez que ce n'est pas forcément facile, parce qu'évidemment tous les différents niveaux de scolarité sont représentés, les organisations syndicales, les différents niveaux, le Collège de France, toute une série de personnalités qui sont toutes liées, alors elles ont un point commun, elles sont toutes liées à la résistance. Il n'y a que des résistants là-dedans. Voilà. Donc ces travaux de la commission vont durer 31 mois. Ils vont durer aussi parce que il faut adopter la règle de l'unanimité, et ils se réunissent, ils ont 68 séances. Alors, ils se développent aussi, ils ne restent pas en vase clos, on le reprochera beaucoup après, mais en fait, c'est un peu plus compliqué. Ils se développent, ils ont des sous-commissions, il y a une centaine de personnes à peu près qui travaillent là-dedans. Ils vont en province, ils essaient de créer des groupes locaux, et ils ont énormément de courriers, national et international. Car c'est une époque très favorable pour discuter des projets éducatifs, étant donné évidemment le secousse que représente la guerre. Alors, les grands axes du plan. Les grands axes du plan, on en a déjà parlé, c'est la prolongation de la scolarité à 18 ans, de 3 à 18. C'est une nouvelle définition de la culture, on va y revenir. C'est l'idée que la formation des maîtres doit être assurée par l'enseignement supérieur, ce qui est de tous les maîtres, doit être assuré par l'enseignement supérieur, et de manière égale. On a mis à peu près, comme vous le savez, donc ça c'est 89, on aboutit à ça. Donc 47-89, c'est un peu long, évidemment. Alors, quand le plan est déposé en juin 47, le contexte politique a changé. Dès le mois de janvier 46, De Gaulle démissionne. Après ça, vous avez la guerre froide, discours de Churchill, de mars 46. Puis vous avez l'éviction des ministres communistes. Ce n'est pas les ministres communistes qui démissionnent, comme on trouve parfois dans certains manuels. Non, on les jette. On les jette. Et évidemment, le début de la guerre froide, l'éviction des ministres communistes, le plan Marshall, c'est-à-dire le fait que l'Amérique va prêter de l'argent, évidemment, mais pas sans regarder ce qu'elle va en faire, tout ça, ça a changé la situation. Donc en juin 1947, évidemment, la situation n'est pas la même. Le plan est donné au ministre qui dit qu'il va en faire quelque chose, mais le ministre va partir. Le ministre Marcel Edmond Nejlen, qui deviendra très célèbre parce que c'est lui qui va devenir gouverneur général de l'Algérie et qui va truquer de manière honteuse les élections de 48 en Algérie. Donc voilà. Il est membre de la SFIO. Alors, les partisans et les adversaires du plan, évidemment, on peut le deviner sans peine. Les partisans, c'est les communistes, les socialistes, la FEN, le SNI et la FEN, car à l'époque, évidemment, la FEN, c'est essentiellement le SNI. Et puis, vous avez les adversaires. L'adversaire est essentiellement les gaullistes, plan chimérique, les radicaux, tout simplement parce que, évidemment, ce que définit le plan, c'est quelque chose qui touche les radicaux et les partisans de revenir simplement en arrière. Voilà. Donc Bière. Alors, cela dit, il y aura 8 ministres radicaux de gauche jusqu'en 58, et tout le monde va dire que oui, on s'inspire du plan, mais en fait, non, on ne s'inspire pas du plan. Voilà. Il n'est pas mis en œuvre. Il y aura 5 ministres socialistes, il y aura un projet de loi de 55 déposé par les socialistes qui fait référence au plan, mais une fois qu'ils sont ministres, ils ne font rien pour faire avancer le plan. Voilà. Alors, on en arrive à la définition de la culture selon Paul Langevin. Je crois que c'est une définition très intéressante que je vous lis. Une initiation aux diverses formes de l'activité humaine, non seulement pour déterminer les aptitudes de l'individu, lui permettre de choisir à bon escient avant de s'engager dans une profession, mais aussi pour lui permettre de rester en liaison avec les autres hommes, de comprendre l'intérêt et d'apprécier les résultats d'activités autres que la sienne propre, de bien situer celle-ci par rapport à l'ensemble. Alors, c'est évidemment quelque chose de très intéressant, qui dépasse de beaucoup l'époque de Jules Ferry, où la fameuse définition de ce qu'on devait apprendre à l'école primaire de Gréard, c'était « ce qui n'est pas permis d'ignorer », ce qui était un peu vague. Mais ce n'est pas sans intérêt non plus. Voilà. Alors, ce qui caractérise ce plan, c'est donc ça, c'est-à-dire qu'il faut moderniser, il faut moderniser la situation de l'enseignement. Et pour ça, alors voilà le plan, excusez pour la mauvaise qualité de la photo, ça c'est le plan original, celui qui est remis à, qui va être développé par le ministère de l'Éducation, la réforme de l'enseignement, projet soumis à M. le ministre de l'Éducation nationale par la commission ministérielle d'études. La composition de la commission, je passe, hein, parce que c'est, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les deux premières pages de... Alors le plan est très court, hein, il n'y a pas 120 000 signes. Et le début est très intéressant pour nous. Parce que dit le début, l'introduction ? Il dit, nous ne partons pas de rien, il ne s'agit pas de tout changer. Il y a déjà des acquis. Ces acquis sont dus à la qualité des enseignants. Ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'il faut qu'on s'en souvienne, nous. Critiquer, ce n'est pas suffisant. Il faut partir de ce qui existe. Parce qu'il y a une raison très simple à ça. Le changement se fera avec ceux qui sont là. Pas avec d'autres. Ça, c'est à l'horizon de 20 ou 30 ans. Mais dans l'immédiat, si on veut faire des changements, il faut faire avec ceux qui sont là. Donc il ne faut pas commencer par leur dire « vous êtes des nuls ». Parce qu'évidemment... ça ne les met pas dans les meilleures dispositions. Bon, je passe là-dessus. Un petit portrait de famille. Vous reconnaissez le moustachu, bien sûr, c'est Paul Langevin. L'autre moustachu qui est à côté, c'est Albert. Hein.
Qui ça ?
Albert Einstein, oui. Les deux autres, je ne sais pas qui c'est, vous ne me demandez pas davantage. À droite, vous avez donc ça, c'est Paul Langevin jeune, en 1923, enfin jeune relativement. Paul Langevin âgé. Et la même chose pour Vallon, jeune et plus âgé. Voilà. Alors, évidemment, après, on passe à l'étape d'hier à aujourd'hui. Alors, juste un mot pour dire que Langevin et Vallon, enfin, le plan Langevin-Vallon, ce qu'on va appeler le plan Langevin, qui est en fait, comme vous l'avez vu, un projet de réforme, hein, a toute une série d'ambitions de type matériel. Pas de classe au-dessus de 25 élèves. Pas de classe au-dessus de 25 élèves. Également, évidemment, revalorisation, etc. Et puis aussi, et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est l'idée que la formation des maîtres va se faire entièrement à l'université, mais en différenciant les maîtres de formation générale et les maîtres de spécialité. On différencie primaire et secondaire. Voilà. Et puis, évidemment... il y aura une étape intermédiaire, car beaucoup d'écoles ont été détruites. Et donc, il faut reconstruire. Et donc, par conséquent, le plan va proposer qu'il y ait une mesure transitoire de 5 ans, où on se contentera d'accroître de 14 à 15 ans l'obligation, et où on se contentera de former les enseignants à Bac plus 2. Évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, ces mesures ne seront pas prises en compte. Voilà, alors, ce qui a changé depuis 60 ans, je passe rapidement là-dessus. Voilà, ce qui a changé depuis 60 ans. 2007, c'est pas très différent d'aujourd'hui, donc je pense que c'est toujours valable. Hein. Je vous laisse lire, mais je lis pour ceux qui ne font qu'entendre. Le nombre d'habitants passe de 41 millions à 62 millions, c'est à peu près un tiers de plus. Le nombre d'élèves en préélémentaire de 0,4 millions à 2,5 millions, donc vous avez une très forte expansion d'école maternelle. Le nombre d'élèves en élémentaire de 4,4 à 4,1, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une certaine équivalence du primaire et du secondaire. Du primaire, pardon, c'est-à-dire que le nombre d'élèves est le même, alors qu'il y a un tiers d'élèves en plus. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est évidemment le phénomène d'urbanisation massif. On passe de 43 000 classes uniques à 4 300 en 2007, ce qui n'est quand même pas tout à fait négligeable. Le nombre d'élèves en secondaire, alors là évidemment vous avez une expansion massive, hein, de 0,5 millions à 6 millions aujourd'hui. Le nombre d'étudiants de 100 000 à 2,2 millions. Et tout ceci pour une population scolarisée qui passe de 5,4 millions à 14,8 millions. Donc on passe d'une population de 13% de la population globale à 24% à peu près. Voilà. Ce qui a à la fois augmenté beaucoup, mais finalement pas autant Voilà. Et ceci, évidemment, se traduit avec un graphique simple, hein, dans lequel vous voyez très clairement que ce qui a augmenté massivement entre 1947 et 2007, en 60 ans, c'est l'enseignement secondaire, l'enseignement des étudiants, mais évidemment, on est loin encore d'arriver à une situation où vous avez une continuité totale. Alors, on en arrive évidemment à la situation de maintenant, je vais donc m'arrêter là, et on va évoquer peut-être, voilà, des questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire un plan tout fait, ou est-ce qu'il faut faire un plan invitant à faire des choses, en demandant aux gens de le faire? On en a, je crois, un peu parlé hier. On a tellement consulté les enseignants que maintenant, ils ne peuvent plus y croire. Hein. Ils ne peuvent plus y croire. Bon. On va encore les consulter. Donc. C'est improbable. Il faut donc s'y prendre autrement. Il faut aussi remonter la pente idéologique dans une perspective progressiste. Pendant 10 ans, les 10 années qu'on a connues sont 10 années noires de recul sur tous les domaines dans la réflexion sur le domaine de l'école. On en est venu à expliquer que la pédagogie n'existait pas, ce qui est invraisemblable. Donc si la pédagogie n'existe pas, vous n'avez pas besoin de poser de questions de progrès. Il n'y en a pas, il ne peut pas y en avoir. Il faut revenir à ce qu'on faisait avant. Voilà. Alors bien entendu, là on est face à des situations tout à fait invraisemblables sur lesquelles je reviendrai éventuellement. Et alors pour faire avancer le changement, eh bien évidemment on est face à des difficultés qui dans le domaine de l'école ne sont pas différentes, à mon avis, de celles qui existent par ailleurs. En gros, les problèmes sont les mêmes. Comment on fait pour intéresser les gens au changement? Si on ne leur propose pas des améliorations qui soient visibles pour eux, pourquoi voulez-vous qu'ils changent? Pourquoi voulez-vous qu'ils changent? Voilà. Je prendrai un seul exemple pour finir. On a vu quand même, pendant ces 10 années noires de 2002 à 2012, revenir sur des questions aussi invraisemblables, puisque ça fait depuis la fin du 19e siècle qu'on le dit, sur expliquer que la dictée, c'était le nec plus ultra de l'éducation. C'est invraisemblable. Depuis plus d'un siècle, on explique que justement, la dictée, ce n'est pas un exercice d'apprentissage, c'est un exercice d'évaluation. Voilà. Donc, il faut faire autre chose, pas simplement se contenter de faire de l'évaluation. Voilà. Je passe sur toute une série de détails de cette nature. Voilà. Alors, je propose qu'on s'arrête là. Si vous avez des questions tout de suite dans ce domaine-là, vous me les posez, mais je donnerai rapidement la parole aux personnes qui sont là et qui ont souhaité la prendre, parce qu'en fait, bon, ce dont on souhaite pouvoir discuter dans le temps qui nous reste, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi, hein? Quelles leçons on peut tirer de ce passé, si on peut tirer des leçons du passé, ce qui n'est pas tout à fait évident, et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? La parole. J'ai deux inscriptions. Trois. Vas-y.
C'est à qui?
C'est à toi, excuse-moi.
Stéphane. Voilà, moi j'ai une question qui me touche particulièrement, ça concerne un peu le handicap, parce que c'est un truc qu'on ne parle pas, je trouve, assez, et ça peut revenir un peu au qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Ça peut faire un lien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, on n'en parle pas déjà je ne sais pas si dans l'éducation nouvelle, il y avait cette idée justement, si on parlait déjà d'intégration d'enfants handicapés, sachant que par exemple pour les aveugles, pendant des années, c'était, je ne sais pas si tu avais entendu parler, l'Institut National des Jeunes Aveugles, Boulevard des Invalides, où a été Louis Braille, entre autres, l'inventeur du Braille. Et on a essayé d'intégrer, puis dans les années fin des années 40, on a donné des instructions par lesquelles que tous les aveugles devaient aller, ou tous les handicapés devaient aller en milieu spécialisé. Et puis maintenant, on revient, alors depuis que c'était Ségolène, hein, la ministre royale, hein, j'entends. Qui n'était pas si royale que ça, de l'enseignement secondaire, on a mis en place le plan handiscol, et j'ai l'impression que ce plan handiscol, c'est catastrophique. Et nous, communistes, on a crié intégration. Moi, je me souviens de débats, même un peu à la JC, quand j'étais, certains qui disaient oui, mais il faut mieux intégrer, parce que sinon, c'est la ghettoisation. Et puis, en discutant, je me rappelle, c'était il y a 3 ans, quand j'avais été à une université d'été, c'était au Caraïbes, c'est la première année, c'est en le cas, et certains disaient, Oui, mais est-ce qu'on ne va pas revenir au milieu spécialisé? Voilà. Et donc, c'est un peu ma question, en fait, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant concernant, par exemple, ton avis là-dessus, concernant le handicap, sachant qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. On se demande ce qu'on fait, quoi, avec des classes spécialisées qu'on a mis en place, les CLIS, avant, ça a été les CES, on disait, là, les sections d'éducation spéciale, les SECPA, aujourd'hui. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on intègre ou pas, quoi. Moi, c'est un peu la question, la réflexion que je... Bon, sachant que l'intégration, dans beaucoup de cas, ça a été l'échec, notamment à l'arrivée en seconde. Voilà.
Oui, alors, ben, je réponds très brièvement, parce que je pense qu'on a, on a d'autres questions. En disant que Marine répondra sur l'actualité. Non, en gros, ce qui est intéressant à savoir, c'est quand même que parmi les secteurs où l'éducation nouvelle s'est imposée sous la forme de s'intéresser à l'élève, il y a tout le secteur, d'abord il y a le secteur des colonies de vacances, dans lequel c'est un endroit où l'éducation nouvelle règne. Voilà. Donc c'est un grand succès pour elle. Hein. Il y a aussi le fait que dès qu'on a affaire à des enfants de marge, eh ben, il faut s'occuper de marge, c'est-à-dire numériquement peu nombreux, il faut utiliser, on utilise ces procédés. Je passe hein, sur le fait que, bon, en revenant au sourd-muet, etc., etc., il y a toute une série d'innovations pédagogiques qui ont été faites dans ce cadre-là et qui ont été ensuite récupérées. Alors après, sur la question de l'intégration, là je vais passer la parole à Marine, hein, voilà. Sur la question, est-ce qu'il faut les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur? Ce qu'on peut dire quand même, hein, c'est que Vichy, vous le savez, pour ce qui est de l'intégration des aliénés, a procédé de manière simple. Hein. Elle les a affamés.
De quoi?
Tous les aliénés.
Ah oui,
on a affamé les asiles d'aliénés. Voilà. Et notamment les enfants. Voilà. On les a affamés, c'est-à-dire que beaucoup, il y a une mortalité terrible parce qu'on a diminué les rations, voilà, dans un premier temps. Voilà. Donc les historiens sont en train de se pencher sur cette question. Parmi les horreurs du régime de Vichy, il y a celle-là. Marion.
Marine,
pardon.
S'il n'y a pas de souci. Oui, très vite, hein, parce que on a encore plein de choses à dire, mais il est évident que nous, notre projet, c'est celui d'une école commune, donc une école qui fasse, dans laquelle tous les enfants aient leur place. Ça ne veut pas dire que les plans qui ont consisté à mettre dans l'école telle qu'elle est des enfants atteints de handicap et le tout sans aucun moyen humain, enfin sans les moyens humains nécessaires pour leur permettre d'être dans la classe avec les autres, en vérité, était une bonne mesure. On s'est opposé à cette mesure parce que, sous couvert de mettre tout le monde dans la même classe, en fait, elle fabriquait de l'exclusion, tout bêtement, encore plus d'exclusion. Et ça n'empêche pas que le projet à terme, c'est bien celui d'une école qui fasse la place à tous. Ça implique des transformations profondes de l'école, c'est évident. Autre problème que pose cette question des enfants handicapés, sur lequel je crois qu'il faut qu'on travaille de manière plus approfondie, c'est celui de la définition du handicap. Puisqu'aujourd'hui, on inclut dans le handicap des handicaps qui sont médicalement définis et des handicaps qui n'ont pas d'autre définition que scolaire. La dyslexie, ce type de difficulté scolaire qui est assimilée à du handicap. Donc là aussi, il y a un travail à faire. Avant de dire il y a des structures spécialisées, etc., il y a un travail à faire sur dire où est la difficulté, quel est le problème qui fait que l'école ne peut pas accueillir ou ne peut pas faire pareil pour tel élève que pour tel autre. Ensuite, trouver des moyens de faire et trouver ces moyens dans le cadre de l'école. Là, je parle du projet communiste. Quand on est dans la réactivité aux politiques menées, il est évident que la politique d'intégration à tout prix, avec des moyens très très faibles pour réaliser cette intégration, qui a en fait visé surtout à détruire un certain nombre de structures et à supprimer un certain nombre de postes aussi, est une politique catastrophique. D'autant qu'elle perd, je crois, elle a contribué à détruire une culture pédagogique aussi. C'est-à-dire que dans des structures spécialisées, il y avait des travaux d'équipe pluridisciplinaire, des réflexions pédagogiques sur comment faire réussir, qui auraient pu bénéficier à l'ensemble des élèves, qui étaient loin d'être simplement adaptés à un public spécifique, qui étaient des réflexions qui pouvaient travailler à la réussite de tous, et qu'on a contribué à marginaliser, à détruire, en faisant dépérir ces structures. Voilà, mais je m'arrête là, parce qu'on a plein de choses à dire.
Je vais vous mettre bref si c'est possible.
La fresque historique que tu as faite de l'éducation nouvelle, il n'est pas dit un mot de l'expérience réelle vécue après 1946 jusqu'en dans les années 50 des classes nouvelles. Il y a eu des classes nouvelles de constituées avec 25 élèves, avec des méthodes pédagogiques tout à fait nouvelles par rapport aux habitudes habituelles des scolarités. Alors, je pense qu'il est dommage d'oublier ça.
Voilà, mais je réponds très vite. Hein. Là-dessus, la situation est un peu est une des questions que se pose le plan. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut mettre en œuvre déjà un certain nombre de mesures? Alors, les classes nouvelles sont mises en place avant même la fin du plan. Et dans un premier temps, les responsables du projet, enfin, puisque c'est un projet, bon, on va dire le plan pour simplifier, sont pas absolument d'accord. Quand ces classes nouvelles sont mises en œuvre, la position du parti, c'est de dire, c'est bien gentil d'avoir quelques centaines de classes nouvelles, mais sur la masse, si c'est destiné à masquer les insuffisances graves de l'ensemble, c'est pas bon. Voilà. Donc, cela dit, l'apport des classes nouvelles est évidemment important puisqu'elle va ensuite susciter toute une tradition à l'intérieur du mouvement de l'éducation nouvelle, même si ce mouvement d'éducation nouvelle va connaître un affaiblissement très évident après 1970. Voilà. Et aujourd'hui, il est très affaibli. Voilà. C'est un cas. Oui, vas-y.
Je pense que la position des communistes de l'époque n'était pas juste. Ensuite,
on peut se dire ça.
Je pense qu'il y a eu vraiment des expériences que j'ai vécues. Et où, par exemple, on visitait des ateliers, des musées. J'étais à Paris, moi, et je n'ai jamais visité autant de musées que dans cette première année du lycée Buffon en classe nouvelle. Et par rapport à aujourd'hui, où déplacer des élèves dans une autre institution ou aller dans une forêt, c'est la croix et la bannière. Bon.
Je ne suis pas sûr que l'opposition soit aussi violente. Hein.
Non, mais...
Regardons
le nombre de visites dans une année,
oui.
Dans une classe. Je sais qu'en Suisse, par exemple, c'est deux visites.
Oui, oui. On va faire... tu veux... Il y a quelqu'un qui...
Christine, c'est ton tour.
Christine, moi, je m'interrogeais sur le rêve inventé, d'autant plus que tu viens de dire l'école d'éducation nouvelle, elle est en période de l'été 1970. Et alors, je ne pense pas du tout...
J'ai pas d'expérience.
Par exemple, alors déjà, il y a une référence tout à l'heure à... Il y a une référence tout à l'heure à ce qui a eu lieu, par exemple, l'expérience du 20e à Paris, à l'initiative de Robert Lotton, qui avait pour projet de faire la démonstration dans les réels que les enfants des classes populaires pouvaient réussir. A été un succès puisqu'ils sont tous arrivés au BPC là. Et Henri Bassis expliquait que quand Bloton l'a sollicité, Henri Bassis qui a été président du GFL, a été sollicité par Bloton, Bassis militant du Parti communiste a dit moi j'ai autre chose à faire, je fais la révolution. Et Bloton lui a dit, donc si je comprends bien, la révolution ça commence à 16h30 et avant. Voilà. Donc,
Il n'est pas resté sur ses positions, quand même. Bah si, c'est pas resté sur ses positions.
Ah ben non, il explique qu'il s'est rassis
oui, mais enfin...
en se disant il faut que j'interroge ma conception de ma pratique de communisme.
D'accord.
Et puis après, il est allé au Tchad pour maintenant. Voilà. Je vais en rester à ce qui s'est passé en France. Donc, cette expérience du 20e, et ça corrobore ce que disait la personne devant moi, il s'est fait des choses en France qui ont montré que. Ça, c'est quand même une rupture radicale avec ce que je disais avant. On n'est plus seulement dans les intentions. Il y a du possible dans la réussite des enfants des classes populaires. Et puis, il me semble que dans l'actualité très récente, il se passe des choses qui sont, qui restent diffuses, peu connues, et puis qui ont été, pour le moment, qui ne sont pas actés dans le réel, c'est-à-dire qui n'ont pas participé à transformer les choses, mais la loi d'orientation inscrit le tous capable, c'est une rupture dont on ne mesure pas les effets, je pense, encore, au moment. Inscrire que tous les enfants sont capables de réussir, c'est une rupture radicale par rapport à toute l'histoire de l'éducation nationale. Et je trouve que ça, c'est pas inintéressant. Ce que disait Denis Paget hier sur le socle, là aussi l'introduction de la culture dont tu parlais, telle qu'elle est conçue telle qu'elle a défini Denis Paget, c'est aussi une rupture radicale avec tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent, y compris dans les programmes de 2002. Les programmes de maternelle font aussi rupture avec une conception d'école maternelle très favorable aux enfants de classe moyenne. Bref, il me semble qu'il se passe des choses qui font que l'ensemble des, enfin, un très grand nombre d'organisations syndicales, politiques, je pense au Front de Gauche entre autres, ont inscrit, alors après on peut discuter de comment inscrire les six enfants, le tous capables dans leur programme politique. Pour moi, ça, ce sont des ruptures fondamentales qui vont faire. Alors, ça ne va pas se passer dans les 15 jours qui viennent. Il risque d'y avoir des régressions phénoménales aussi dans la mise en place de tout ça. Mais je trouve, moi, que l'éducation nouvelle, après cette période florissante de conception, etc., jusqu'aux années 47-48, des moments effectivement un peu. S'est transformée, elle n'est plus le fait des élites comme elle a pu l'être, parce qu'effectivement, tu disais, c'est une création aristocratique, en effet, c'est l'élite intellectuelle qui était à l'origine, c'est-à-dire qu'elle traverse désormais de manière beaucoup plus forte tous les espaces d'enseignement, et elle prend une place relativement hégémonique, même au sens franchin du terme, dans les échanges qui existent désormais sur pourquoi faire une école, qu'est-ce que c'est qu'une école, qu'est-ce que c'est qu'une école démocratique, etc. Donc, au-delà des apparences, parce que les mouvements d'éducation nouvelle, effectivement, représentent une extrême minorité d'enseignants, il n'empêche que les idées qu'on porte ont une audience jamais atteinte. Donc le rêve n'est pas avorté.
Ah, pour le titre. Oui, non, mais c'est, attention, c'est le rêve avorté du Conseil national de la résistance.
Oui, bien, mais non, par mais, rapport à ton développement.
Mais, oui, alors, j'ai un peu insisté sur le fait que l'éducation nouvelle, par définition, n'est pas forcément progressiste. Et réciproquement, que par définition, elle n'est pas nécessairement régressive. Voilà. C'est-à-dire que c'est le rapport, bon, facile à comprendre, entre l'école et la société. Voilà. Tu voulais prendre la parole? Je ne sais pas comment on va faire pour vous donner
on
la parole.
On va faire très très court tous les très deux. Court.
Bon, ça va.
Je voulais revenir sur la définition de Jules Ferry de ce que c'est la culture. Le démarrage, c'était de dire que c'était ce qu'on ne peut ignorer. Petit à petit, il y a une évolution de cette définition de la culture et du coup, j'imagine, du contenu de l'enseignement dans l'école nouvelle. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter à un moment donné sur la définition qu'on fait de l'enseignement aujourd'hui dans les gouvernements, dans ce gouvernement Sarkozy, puis dans le nouveau gouvernement aujourd'hui, puisqu'on a eu quand même un long débat sur ce qu'on devait enseigner aujourd'hui dans les écoles et à quoi ça servait le temps de l'école, l'action de l'enfant et l'habilité. Et de l'enfant, du citoyen, et notamment avec la réflexion de la suppression d'enseignement d'histoire ou d'autres matières, la philo, des choses comme ça. Et donc, il y a quand même une volonté politique ces dernières années de revisiter le contenu de l'enseignement avec une affirmation politique de dire l'école sert à former la main-d'œuvre. Et où en est-on aujourd'hui, la politique du gouvernement actuel et celle de Sarkozy sur. Le rôle de l'école et l'ancrage de l'école dans la société et du coup l'enseignement, la culture, quoi faire, quel projet de société. Je trouve que c'était intéressant tout cet exposé-là, mais aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, finalement j'ai l'impression qu'on revient à l'époque de Jules Ferry, quelque part, sans le dire. Du coup, j'ai l'impression qu'on est dans une démarche plutôt régressive que progressiste. Enfin, c'est donc le sentiment que j'en ai eu de la manière dont j'avais tiré un peu le fil de l'histoire sur le rôle de l'école. Et de l'école nouvelle et de l'enseignement, l'instruction. Voilà, il y a quelque chose aujourd'hui qui manque sur. Il y a des définitions du rôle de l'école aujourd'hui parmi les gouverneurs, ceux qui prennent les décisions. et ça ne fait pas suffisamment réagir ou révolter les citoyens.
Oui, mais une école est forcément en rapport avec un projet de société, un projet d'école. C'est forcément en rapport. Sur l'employabilité, j'attire quand même votre attention sur les contradictions. Les communistes ne sont pas contre la question que pose l'usage de l'école en rapport avec le travail. Ils ne sont pas du tout contre. Je rappelle au passage quand même que Marx expliquait très clairement qu'il n'était pas contre le travail des enfants. Mais bien entendu, dans les conditions du socialisme, et d'ailleurs dans les pays du socialisme réel, comme on disait à l'époque, dans les classes de collège, les enfants fabriquaient des choses. Hein, et ça n'avait pas l'air d'être traumatisé. Donc, non, c'est évidemment dans quelles conditions on se trouve. Voilà. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'expliquait Cognot, il disait. Mais notre projet, c'est juste un projet démocratique. Ce n'est pas un projet pour une société socialiste, à plus forte raison communiste. Pour quelle raison ? Parce que notre projet ne s'attaque pas à une question qui est très forte et justement qui renvoie à ça. C'est le rapport entre l'école et la fonction concrète dans le travail. Et évidemment, là, on est face à toute une série de contradictions dans laquelle il y a, je pense, à la fois des régressions et puis des avancées. Je crois qu'on aurait tort de se replier sur l'idée selon laquelle la question de ce qui se passe après l'école ne nous intéresse pas. Ça serait une catastrophe. C'est une catastrophe. Toute la question, c'est qu'évidemment, on se heurte là au rôle des patrons qui, eux, ne sont pas nécessairement contre l'école à condition que ça ne leur coûte rien. Voilà. Que ça coûte à l'État, encore que là, ils ne sont plus d'accord maintenant. Mais que ça coûte aux gens qui aux utilisateurs, aux consommateurs, ils n'ont rien contre. Hein. D'ailleurs, ils sont prêts, et c'est ce qui se développe, ils sont prêts d'ailleurs à créer des structures patronales pour enseigner. D'ailleurs, ils ne manquent pas de le faire. Voilà. Tout se vend dans une situation capitaliste. Et tout développement de la partie collective, commune, de l'État dans lequel l'État intervient, c'est autant, évidemment, qui est en contradiction avec un certain nombre d'intérêts patronaux, pour aller vite. Voilà. Bon, je passe là-dessus.
Ce qu'on avait prévu de dire répond un peu à ta question, donc peut-être qu'on va juste intervenir très rapidement maintenant. Très vite, hein. Moi, je crois que ce que tu dis là, ça recoupe un truc qu'on garde du plan Langevin-Wallon, qui est cette espèce de préambule qui dit « on veut former le travailleur, le citoyen, la personne ». Et pas le travailleur et le citoyen, c'est pas deux choses différentes. On forme une personne qui va être citoyenne dans son travail, etc. Et effectivement, ce que tu dis sur le côté réac de ce qui se passe en ce moment, on le voit très bien dans les différentes lectures qui sont faites du plan Langevin-Wallon aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une série de politiques qui se réclament du plan Langevin-Wallon, d'une lecture, à mon avis, complètement erronée, falsifiante du plan Langevin-Wallon, pour imposer une école fondée sur ce qu'ils appellent les aptitudes, c'est-à-dire l'idée que les enfants seraient différemment capables. Le mot aptitude est dans le plan, mais pour dire quelque chose de tout à fait différent, pour dire quelque chose qui dit, pour dire, il ne faut pas que ça soit l'origine sociale qui soit déterminante, il faut que ça soit ce qu'il y a dans les enfants qui est déterminant. Et on reprend le mot aptitude aujourd'hui pour dire les enfants sont différemment capables, et donc en fait pour revenir à l'origine sociale, parce que les différences de réussite scolaire elles sont très corrélées aux différences d'origine sociale. Et donc à partir de cette notion d'aptitude, pour construire une école qui est fondée sur un enseignement de compétences coupées des savoirs, visant l'employabilité, la formation de l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde, et le tout dans une scolarité obligatoire réduite, c'est ce dont on parlait hier, 6-16 ans, avec la promotion du vieux modèle de l'école du socle, l'école fondamentale, l'école moyenne, c'est-à-dire une continuité primaire-collège fondée sur cette validation de compétences et un tri qui se fait très, très fortement à la fin de la scolarité obligatoire. Et ça, c'est un modèle qui est très présent dans l'ensemble de la politique européenne d'éducation, qui a été quasiment calqué en France par la loi Fillon de 2005 et par les politiques sarkozystes, mais effectivement avec lequel la loi de refondation sur l'école ne fait pas, en tout cas pas explicitement, rupture. Et nous, on est en contradiction avec ça en défendant une scolarité obligatoire allongée et l'idée d'une culture, et non pas d'un enseignement par compétence, donc d'un lien étroit compétence-savoir. Bon, je ne développe pas parce qu'on en a beaucoup parlé hier puis que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je voudrais juste insister sur le fait que dans cette espèce de continuité libérale de refondation du système d'enseignement sur des objectifs qui ne sont ni la démocratisation ni l'émancipation, mais bien la rentabilité capitaliste, il y a quand même des résistances fortes et des résistances qui ont trouvé à s'exprimer. On dit, je ne voudrais pas tomber dans la gauche est arrivée au pouvoir, puis finalement ils ont fait comme la droite. Il y a une continuité politique très forte, mais il y a des résistances qui ont trouvé à s'exprimer là plus qu'avant. Et notamment, donc Christine disait l'inscription du tous capables dans la loi, grâce au travail de nos sénateurs quand même, c'est un point d'appui qui ne deviendra quelque chose dans le réel que s'il y a des gens pour en faire quelque chose, mais c'est un point d'appui. Et puis le travail dont on discutait hier sur les nouveaux programmes, et en particulier le nouveau socle, les nouveaux programmes de maternelle qui vont être mis en consultation parmi les enseignants à la rentrée, qui, alors qu'il était guidé quand même pour rentrer dans ce moule libéral, est fait par des gens qui viennent de milieux divers, et fait rentrer quelque chose d'autre, une autre conception des savoirs, une autre conception du contenu, une autre conception de la visée de l'école, l'émancipation est présente. Et là aussi, tout ça ne deviendra... Enfin, c'est comme le plan Langevin-Vallon, hein. C'est un très beau plan, et c'est un magnifique échec politique. Je veux dire, il faut qu'on tire la leçon des deux. Les grains de sable qu'on pose aujourd'hui ne deviendront des succès politiques que si on est capable de transformer l'essai, ce dont nous avons été incapables à l'époque du plan Langevin-Vallon. Et je crois qu'il faudrait aussi être capable de s'interroger là-dessus. Qu'est-ce qui fait que rien de tout ça, alors qu'aujourd'hui c'est absolument consensuel et que tout le monde explique que le plan Langevin-Vallon c'est la référence des politiques éducatives, en même temps rien n'est mis en œuvre. Et ça fait quand même un certain temps, quoi.
Pas tout à fait rien.
Non, mais disons, la visée fondamentale, et que ça soit la scolarité obligatoire, le salaire des jeunes, bon, voilà, il y a quand même...
Hugo, je sens que tu vas avoir prendre la parole à ce sujet.
Bah, justement, je vais rebondir du coup sur la scolarité des jeunes. En partant, en évoquant rapidement les ambitions et puis les propositions faites par le plan Langevin-Vallon à ce sujet, puis il y a quelque chose de très fort, il y a toute une partie dans l'introduction, du plan Langevin-Vallon, où on nous dit, voilà, de nouvelles exigences, en plus de la reconstruction du pays, où je suppose que c'était une sacrée exigence déjà, mais de nouvelles exigences sont posées au pays, de nouveaux moyens énergétiques, de nouveaux moyens de transport. On a besoin pour l'avenir de cadres, de techniciens, d'enseignants, d'ingénieurs. On a besoin aussi de former de nouvelles élites, puisque tu le disais rapidement dans l'introduction, les dirigeants ont failli, quoi. Enfin, les dirigeants, la direction du pays s'est retrouvée à terre. Une exigence très forte de formation, du coup, de qualification du pays et de sa jeunesse, à laquelle il faut donner des moyens. Et la proposition, il parle de gratuité dans ses principes, le plan Langevin-Vallon, mais de gratuité entendue quand même en un sens très large et en un sens où on n'a pas l'habitude de l'entendre. Il dit c'est la gratuité au fond, il faut aller au fond de la gratuité, il faut proposer des pré-salaires dans le secondaire et un salaire pour les étudiants, pour leur permettre, à la fois pour leur permettre d'arriver au terme de leurs études, pour élargir la base de l'enseignement supérieur, pour former ces cadres, ces techniciens, ces dirigeants, ces ingénieurs dont le pays a besoin, mais également parce qu'il faut reconnaître les travailleurs qu'ils sont, il faut reconnaître les salariés en formation qu'ils sont. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des exigences qui, sans être analogues, posent un petit peu les mêmes questions dans le domaine et qui sont insatisfaites dans l'enseignement supérieur. Les exigences posées à l'enseignement supérieur sont insatisfaites dans le domaine démocratique, évidemment, et c'est flagrant, puisqu'on a l'impression qu'aujourd'hui, là, au XXIe siècle, on a les moyens d'une démocratie avancée, profonde, permettant à tous l'intervention sur la vie publique, et que plus que jamais, la vie politique est sordide. Dans les domaines, évidemment, aussi, du travail et de la vie professionnelle. On est confronté à des exigences folles du point de vue énergétique, environnemental, en plus, cette nouvelle question qui s'est posée, éducatif, industriel, à l'heure où la finance démolit une à une les entreprises. Et pour autant, on se retrouve avec... de lourds dysfonctionnements quand même dans l'enseignement supérieur. 60% des entrants qui, à la fin, n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien en poche. La première qualification produite par l'enseignement supérieur, c'est l'absence de qualification. Donc c'est un peu drôle à entendre. Il faut un petit peu regarder. Et puis pour tirer le fil de la démarche du plan Langevin-Vallon, regardez les bases sociales de ces difficultés. Regardez, là, je sais que je le dis rapidement, mais que l'UNEF, par exemple, vient de sortir une étude montrant que le budget mensuel moyen d'un étudiant, c'est 799 €, je crois. C'est-à-dire un petit peu en dessous du seuil de pauvreté. Alors, il ne s'agit pas de faire du misérabilisme ou quoi, mais enfin, quand c'est aussi inconfortable que ça de mener des études, il n'est pas bien étonnant qu'on les abandonne. De la même manière, le salariat étudiant, c'est quasiment une double journée, quoi, aller en cours et suivre des études. Et être salarié. Je pense également à la question qui s'est posée il n'y a pas si longtemps sur la question des retraites. Quand les années d'études sont des années perdues pour la retraite, là aussi, il faut un sacré courage pour arriver au terme de son cursus. Du coup, les exigences de l'avenir, on a du mal à y répondre. Dans les domaines d'ingénieurs, par exemple, comment se fait-il qu'il soit si difficile quand on sort des filières technologiques d'accéder aux filières d'ingénieurs? Bah ouais, il y a une sacrée barrière, c'est 5 000 € de frais d'inscription. Et puis derrière, en plus, c'est des filières tellement exigeantes qu'on peut pas avoir de revenus complémentaires, qu'on peut pas travailler à côté. Dans le domaine de l'enseignement, avec les réductions des bourses accordées à ceux qui préparent les concours, on a besoin d'enseignants à l'avenir, surtout après 10 ans de casse libérale. Dans les domaines des nouvelles... Les nouveaux secteurs de la vie professionnelle, là aussi il s'agit d'élargir la base sociale des étudiants, permettre à plus d'étudiants d'accéder à l'enseignement supérieur. Bah, le gouvernement vient d'annoncer qu'il gelait les bourses et que les boursiers échelon 7, ceux qui en ont le plus besoin, perdent 100 € de bourse sur l'année. Donc on est quand même dans une situation où les exigences sont profondément insatisfaites. Et toute cette situation, les développements nécessaires d'une politique éducative convergent vers une grande proposition, je pense, c'est ce que je voulais mettre en avant, qui était déjà posé par le plan Langevin-Wallon, et je crois que la force d'anticipation du plan, enfin, elle est impressionnante. Quand on lit, on a l'impression qu'un de nos députés pourrait le dire à l'Assemblée. C'est la question du salaire étudiant. Et on a le sentiment, je crois en tout cas, que en l'absence de cette politique-là mise en œuvre, les frontières de nos politiques éducatives sont désespérément étroites. Tant qu'on n'a pas franchi ce cap qui d'une part donne les moyens aux étudiants et aux élèves de conduire leur cursus, d'apprendre et d'exercer le métier qu'ils ont choisi, alors c'est une exigence forte pour eux, pour l'émancipation personnelle et collective de la jeunesse, mais également pour la société. Hein. Là, la conférence des présidents des écoles françaises d'ingénieurs disait « En France, il manque 10 000 ingénieurs par an ». Il manque 10 000 ingénieurs par an. Et pour autant, on met des barrières folles, arbitraires en plus, sur base de sélection sociale, à la formation des ingénieurs. Donc c'est certes un outil d'émancipation personnelle et collective, c'est un outil de progrès scientifique, technique, professionnel pour la France. Et puis, je rebondis là-dessus, et je vais vite, enfin, quelques phrases. Il s'agit aussi de reconnaître aux étudiants ce qu'ils sont, de ne pas les traiter comme c'est un petit peu fait, mais de manière très idéologique, en adolescent monté en graine, auquel on file des réductions au cinéma, alors que ce dont ils ont besoin, c'est de moyens. Des réductions au McDo, des réductions au cinéma, c'est de moyens qui leur permettent de conduire leur cursus à son terme. Et ces moyens-là, en l'état, ils les ont pas. Ils pourront pas apporter la contribution qu'on attend d'eux dans le monde du travail. Ils pourront pas réaliser leurs projets professionnels, leurs projets personnels. Il faut les reconnaître pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que, une journée d'études, c'est une journée de travail qui, à ce titre-là, susceptible de salaire, permettant de cotiser à la retraite, fondant aussi nos propositions d'égalité hommes-femmes dès la formation. Ben, le salaire en fonction de la qualification, l'arbitraire sexué n'intervient pas. Permettant de conduire des cursus longs. Je ne reviendrai pas, par exemple, sur la course aux allocations de thèse auxquelles sont réduits souvent les scientifiques. Donc voilà, donner les moyens aux étudiants de répondre à ce qu'on attend d'eux dans la société et les reconnaître pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui à ce titre-là, si on veut qu'ils travaillent bien dans de bonnes conditions et qui répondent à ce qu'on attend d'eux, bah, il faut leur en donner les moyens, un salaire, des droits salariaux qui vont avec, la cotisation pour la retraite, etc. etc.
Vas-y. Justement, hein, on est en train de saboter l'apéro sur Maurice Thorez. Ce qui est dommage.
On vient d'entendre Manuel Valle qui a dit « J'aime les entreprises ». Immédiatement m'est venu à l'idée, moi j'aurais aimé l'entendre avec ses amis de l'ENA, « J'aime le travail manuel ». Je crois qu'on souffre en France de la place réduite du travail manuel, des ouvriers évidemment, mais la considération de l'aspect technique, de l'industrie et du travail manuel, qui n'est pas seulement qui concerne le travail manuel, concerne aussi les cadres et les ingénieurs, mais ça concerne aussi les ouvriers. Voilà. Bon, j'arrête.
D'accord. Juste un mot pour dire, ça me fait penser à une anecdote. J'avais un dirigeant de ma section départementale de la FEN, qui me disait le travail manuel, je ne comprends pas bien. Un pianiste, ce n'est pas un manuel. Un chirurgien, ce n'est pas un manuel. Donc en fait, je crois qu'il faut aussi qu'on dépasse un certain nombre de frontières, parce qu'elles ne tiennent pas la route. Faire du travail manuel, il faut être intelligent. Voilà. Donc il faut qu'on dépasse ça. Cela dit, je mesure bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, bien entendu, tous les métiers ont besoin désormais d'avoir une dimension de cette nature. Cela dit, bien entendu, il y a des résistances pour ça. Juste un mot, et pour finir, que vous sachiez quand même, peut-être ça vous êtes pas, vous n'en êtes pas aperçu, mais la dernière édition du plan Langevin-Wallon, c'est 2004, faite par Mérieux, Dubé et Allègre. Alors c'était à l'époque de Sarkozy, évidemment. Bon, je crois qu'il faut peut-être, pour conclure, qu'on s'en tienne, non pas à parler d'avortement, parce qu'effectivement, c'est plutôt négatif, dans tous les cas, mais plutôt parler de... On avait trouvé un titre qui vaut ce qu'il vaut, hein, au moment du cinquantenaire du plan Langevin-Wallon, quand on a fait un grand colloque là-dessus, une utopie vivante. Voilà. Eh bien oui, le plan Langevin est toujours vivant, ce qui prouve quand même que... Il était toujours et il est toujours fort, riche, et nous pouvons avoir la fierté que les deux responsables étaient des communistes.